journée de formation du CCFD Terre Solidaire, la transition écologique est-elle une responsabilité de chrétien? Deuxième intervention, Bible et tradition, par le père Benoît Nouvel.
Bonjour à tous, ça vous m'entendez? Oui. Moi, donc, c'est un vrai défi en 25 minutes de vous parler de la Bible et de la tradition, voilà, et de répondre à cette question. La transition écologique est-elle une responsabilité pour le ou les chrétiens? En introduction, j'ai envie de dire comme Woody Allen, la réponse est oui, mais est-ce que vous pouvez répéter la question? Personnellement, c'est assez récent, mon essai de conversion ou de transition écologique. Depuis tout petit, j'ai un amour des animaux, j'ai étudié la biologie, mais je n'étais pas encore trop appelé à cette responsabilité. C'est assez récent, j'étais prêtre au milieu des jeunes du MEJ et on a dû ensemble bâtir un spectacle sur Laudato Si. Et donc là, on s'est mis à lire ensemble l'encyclique et à se laisser interpeller. À lire la Bible, à écouter la tradition, c'est évident qu'il faut prendre soin de tout le monde créé, de notre maison commune. Écologie, c'est la science de la maison, hein, du milieu. Et donc, plutôt que de transition, les chrétiens, les croyants, parlent de conversion, hein, de ce retournement, de ce changement et de mentalité et de pratique. Alors, il y aura deux parties dans mon intervention. La première, alors je suis désolé, je n'ai pas fait encore ma conversion numérique, donc je n'ai pas d'image à vous montrer. Ah oui, voilà. Donc la première partie, c'est un petit plongeon dans les sources bibliques. Dans le Premier Testament, il y a bien sûr ce grand récit de la création du monde, une ouverture grandiose. Le Seigneur est le Créateur qui appelle à la vie par sa parole. Il dit, et cela se réalise. Et il voit que c'est bon, ou même très bon, et il crée en séparant, en peuplant et en nommant. Tout cela, ça s'est passé au début, à l'origine, mais ça se passe aujourd'hui. Je vous cite le pasteur Antoine Nuis. C'est aujourd'hui que Dieu lutte contre le chaos, en séparant le jour et la nuit, le ciel et la terre, les continents et les océans. C'est aujourd'hui qu'il nous dit que nous sommes invités à habiter un monde que nous n'avons pas créé. Et un peu plus loin, il dit « Dieu organise le monde dans lequel nous vivons, il peuple la création pour nous apprendre que les astres, les animaux, ne sont pas des divinités à adorer, mais des créatures qui disent une création plus grande que ce que nous sommes capables de comprendre. » Ce récit a deux sommets, en fait. Il situe l'humain, l'être humain, homme et femme, au sommet, pour dire qu'il a une responsabilité particulière. Et il conclut en instaurant un second sommet, qui est le sabbat. Alors si on prend quelques versets de ce grand poème, au début ça commence par le commencement, hein, au commencement, en hébreu bereshit. On a beaucoup dépensé de la salive et de l'encre sur ce bereshit, hein, le fait que ça commence non pas par la lettre Aleph, A, mais par le Bet, voilà, une lettre ouverte, voilà, dans un commencement. Voilà. Et même un ami me racontait que la tradition juive, c'est dans le livre d'André Néer, rappelle qu'il y a même eu pour eux 26 tentatives de création avant la nôtre. Voilà. Et celle-là, on se demande si elle va tenir. Voilà. Toujours est-il que la création pour la Bible et pour ce récit, elle est appelée à continuer, à être continuée. Et c'est l'homme qui est le responsable, le coopérateur. Je cherche le nom de Jacques Ellul, parle du lieutenant, hein, celui qui tient lieu. Dieu donne aux herbes, aux arbres, aux plantes leur utilité, mais aussi leur beauté, ainsi que la subtilité de leur saveur et de leur parfum. Les poissons sont multicolores et prolifiques, le vol des oiseaux majestueux et magnifique. Aussi les observer éveille au sens de la gratuité, de la beauté, de la générosité. Un petit verset intéressant, c'est quand le troisième jour, Dieu s'adresse à la terre puis à la mer pour leur demander qu'elles se couvrent de verdure. Voilà. Donc ce n'est pas Dieu qui va le faire, c'est la terre elle-même, hein, par ses capacités, qui produit les plantes. Et même chose pour la mer. Le texte continue, Dieu les bénit. En français, bénir, c'est dire du bien. En hébreu, le verbe suggère davantage l'abondance. Voilà. Bénir quelque chose ou quelqu'un, c'est dire je veux que tu vives et même que tu te multiplies. Le commandement, soyez féconds, multipliez-vous, est à entendre aussi au sens qualitatif. L'humain est appelé à une fécondité dans le domaine de la relation, de l'étude, de l'art, de la connaissance. J'en viens au verset qui troue un peu la page. Remplissez la terre et soumettez-la, soyez les maîtres, dominez. Ici, le mot hébreu signifie maîtriser, mettre en harmonie. C'est un mot qu'on retrouve, c'est très intéressant, dans Ézéchiel 34, à propos du berger qui doit veiller sur les plus faibles. L'injonction de Dieu est au pluriel, ce qui veut dire que c'est ensemble, homme et femme, dans un partenariat, que nous avons à être co-créateurs. Alors ici, il faut bien avouer que la traduction a été mal comprise et a fait bien des dégâts. J'aime bien ce que dit Eliette Abécassis dans sa lettre à Dieu. Cher Dieu, nous avons bien reçu votre manuscrit intitulé Genèse, mais nous avons le regret de vous dire que nous ne sommes pas en mesure de le publier en l'état. En effet, votre texte souffre de trop nombreuses incohérences qui rendent sa lecture et sa publication problématiques. Alors le pape François nous aide en nous disant l'important c'est de mettre ensemble les deux paires du premier et du deuxième récit. La première paire, dominer et soumettre, est à mettre donc en lien avec cultiver et garder. Les deux vont ensemble. Enfin, à propos de la création de l'homme le sixième jour, Antoine Nouis, toujours lui, rapporte ce que disent les rabbins. L'humain devrait toujours avoir deux poches dans lesquelles il puiserait selon ses besoins. Dans l'une seraient écrits ces mots, c'est pour mon salut que la terre a été créée. Et dans l'autre, souviens-toi que tu es poussière et que tu redeviendras cendre et poussière. De fait, si la création a une origine, elle a aussi un but, une fin. Alors la plupart, vous êtes des membres du CAP. Je ne sais pas si en landais, CAP, c'est comme en béarnais, le CAP. Hein, c'est le but. Voilà. Et ce but, cette fin de la création, c'est le Shabbat. Rachi de Troyes se pose la question, mais qu'est-ce que Dieu a créé le septième jour? Et il répond, le Shabbat, la tranquillité, la sérénité, la paix, le repos. L'humain n'est donc pas le seul sommet de la création. Un autre sommet est celui du sabbat. Repos, célébration, bénédiction, sanctification. Si Dieu a pris le temps de contempler sa création, de voir et de dire qu'elle était bonne, à l'homme de faire de même. Prendre de la distance, regarder, écouter, se souvenir. Inscrire notre temps dans le temps de Dieu, introduire de l'éternité, de la vie éternelle dans la succession de nos journées. Il faut quand même dire un mot du second récit. Je pense que vous connaissez la blague du second récit, un serpent, une pomme, deux poires et beaucoup de pépins. Adam et Ève, donc les deux poires, en voulant prendre le fruit de la connaissance du bonheur et du malheur, ont provoqué une rupture dans toutes les relations, avec Dieu, entre eux et avec la création. Et il faudra attendre la fin du livre, avec l'Apocalypse, pour que la femme écrase la tête du serpent et que la vie l'emporte sur la mort. Avant de passer au livre de l'Exode, un petit mot quand même de Noé. Dieu regarda la terre, elle était pervertie et remplie de violence. Là aussi c'est actuel. Noé entra dans l'arche. Et Dieu se souvint de lui, de toutes les bêtes sauvages et des bestiaux. Une fois le déluge passé, Dieu le bénit. Et Noé devient cultivateur, littéralement homme de la terre. Adama. Il plante une vigne. Et Dieu dit, plus jamais il n'y aura de déluge. L'alliance est renouée et je mets un signe dans le ciel, l'arc, et je mets un signe sur la terre, la vigne, pour dire que cette alliance, elle sera jusqu'au bout. J'en viens à mon deuxième texte biblique, l'épisode du veau d'or. Je pense que tout le monde connaît, pas besoin de re-raconter ce qui se passe, mais simplement je vous en dis le commentaire qu'en fait Gaël Giraud, qui est à la fois économiste et jésuite. De même que Moïse a brûlé et réduit en poudre le veau d'or, puis a mis cette poudre dans l'eau et a fait boire les Israélites, comment aujourd'hui montrer aux gens, à nos contemporains, peut-être à nous-mêmes, qui courent après l'argent, que cet argent ne nourrit pas. Et cela me rappelle les mots assez forts de Sitting Bull. Quand ils auront coupé le dernier arbre, pollué le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson, alors ils s'apercevront que l'argent ne se mange pas. Troisième et dernier texte du Premier Testament, c'est le beau et long dialogue entre Dieu et Job. J'en retiens donc quelques versets que vous avez sur votre dossier. Le Seigneur répondit à Job du milieu de la tempête. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Quand je découpais pour la mer sa limite? As-tu une seule voix dans ta vie donné des ordres à l'aurore? Es-tu parvenu aux réserves de neige et de grêle? Connais-tu les lois des cieux? Sais-tu quand les bouquetins font leurs petits? Qui a mis en liberté l'âne sauvage? Regarde l'hippopotame, ma créature comme toi. Regarde le crocodile. » Et Job répondit, « Je sais que tu es tout puissant. J'ai raconté des œuvres grandioses que je ne comprends pas, des merveilles qui me dépassent et que j'ignore. Je ne te connaissais que par oui dire. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi je me rétracte et m'afflige sur la poussière et sur la cendre. » Écoutons le commentaire de deux femmes biblistes. Pour Kathleen O'Connor, Job fait l'expérience de la beauté et de la liberté sauvage qui règne dans la création. Et cette rencontre le transforme. C'est la beauté qui transforme Job, qui l'ouvre au sein de la tempête, au sein de la souffrance, à une vision plus large que celle qu'il occupe, la place qu'il occupe dans cette création. Elle le focalise sur un au-delà de lui, elle l'aide à quitter sa position égocentrée au centre du monde pour acquérir un esprit de discernement et même reconnaître l'injustice, s'ouvrir à un souci pour le monde, inventer une nouvelle harmonie en portant attention à l'ensemble du cosmos. Le voilà devenu confiant, humble et sage. Une deuxième bibliste, Diane Bergan, nous dit que Job passe d'une conception du monde anthropocentrique à une vision cosmocentrique. Cette rencontre avec le Dieu créateur le conduit à renouveler en profondeur la vision qu'il s'en fait, et même la tempête qu'il a à traverser, mais aussi le monde naturel et sa liberté sauvage. À sa vie, Job devient comme un mystique cosmique, à la fois humble et rempli de cette crainte respectueuse devant Dieu et son mystère. Dans le Premier Testament, il faudrait évoquer, nous avons prié avec les psaumes, mais aussi le chapitre 8 du livre des Proverbes, le cantique de Daniel, le chapitre 3, qui tous chantent la création, mais il est temps de passer au Nouveau Testament. Le premier récit que je retiens, c'est Matthieu 6, 25-33. Avec Jésus, le regard s'élargit et s'approfondit. On est au tout début de l'évangile, au commencement de sa vie publique, et Jésus grimpe sur la montagne, ouvre la bouche et se met à parler du bonheur du royaume. Invite à prier votre Père qui est aux cieux. Et puis nous invite à la confiance, à la contemplation. Ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez, considérez, fixez votre regard sur les oiseaux du ciel. Observez, étudiez, laissez-vous instruire par les fleurs des champs. Et puis il y a une petite expression importante pour dire le cœur du raisonnement de Jésus. Votre Père ne fera-t-il pas davantage, bien plus? Invitation à regarder le Père, sa générosité débordante. Il nous aime combien plus que les oiseaux? Il nous habille combien plus que les fleurs des champs? Deuxième texte du Nouveau Testament. Le prologue de Saint Jean. Le disciple bien-aimé nous ramène au tout début de la création et il voit la présence du Verbe, de la parole, de la sagesse, voilà, Jésus. Et il se fait poète, il contemple et il témoigne. Voilà. Au commencement était la parole. Voilà, une nouvelle genèse. J'aime bien le commentaire qu'en fait Victor Hugo quand il raconte ce dialogue entre la lumière et le Verbe. La lumière dit, mais c'est moi qui étais la première. Mais le Verbe dit, mais non, le Fiat Lux, c'était moi. Et Jean continue, tout fut par lui. Alors, Jésus qui est le Créateur, Jésus qui était là, hein, à la différence de Job, et par contre, comme la sagesse, quand Dieu créa l'univers. En lui était la vie, il était la lumière, il était dans le monde, et le monde fut par lui. Donc le Christ vit, lumière. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité ou planté sa tente parmi nous. C'est vertigineux, tout est concentré sur l'unique Verbe de Dieu, ce Logos qui, pour les Grecs, organise l'univers, le cosmos. Entre les deux mots, le Verbe, la parole et la chair, il y a tout l'écart, le paradoxe entre la toute-puissance, la gloire, la transcendance et la fragilité, la précarité, l'immanence. Et nous avons vu, nous avons contemplé sa gloire. Quelle est l'expérience mystique du disciple ou de sa communauté qui a vu et qui témoigne? Un petit peu comme le jour du sabbat, où Dieu vit que cela était bon et nous invitait à faire de même. Et Jean termine. De sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce, invitation à la gratitude. Au plan théologique, cette incarnation du Verbe fait chair, c'est vraiment l'événement qui inaugure la restauration et la divinisation, comme aiment à le dire nos frères orthodoxes, de l'homme et de la création. Troisième extrait du Deuxième Testament. Un petit passage des Actes des Apôtres et puis les hymnes de Saint Paul au Christ glorieux et cosmique. Simone Veil écrivait: La beauté du monde, c'est la tendresse du Christ pour nous à travers la matière. Et Luc met dans la bouche de Paul les paroles d'un philosophe qu'il connaît bien de sa ville de Tarse. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, car nous sommes de sa race. Voilà, nous sommes de la parenté, de la famille, de la descendance de Dieu. Et puis la lettre aux Hébreux, Dieu, en la période où nous sommes, nous a parlé par un Fils qu'il a établi héritier de tout, par qui aussi il a créé les mondes, l'univers. Ce Fils et resplendissement de sa gloire, expression de son être, et il porte tout par la puissance de sa parole. Jésus donc est ce Christ glorieux qui a créé et qui porte tout. Dans la lettre aux Colossiens, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature. En lui tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et les invisibles. Tout est créé par lui et pour lui, et il est lui avant tout, et tout subsiste en lui. Il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui, ayant établi la paix par le sang de sa croix, soit celle de la terre, soit celle dans les cieux. Si on voit bien que, comme le dira saint Irénée, par la suite, le Christ récapitule tout. C'est lui qui met en harmonie, qui réconcilie sur la terre et dans les cieux. Enfin, un dernier texte de saint Paul, dans Romains 8, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Elle garde l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. La création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Belle image de cette création en travail, d'enfantement, voilà, vers la libération, vers la gloire. Tout le processus de création est dirigé vers l'événement du Christ, qui est à la fois l'origine, il est avant toute chose, et l'ultime destination. En lui, tout est récapitulé. Ici, il peut y avoir deux interprétations. Si on lit ce texte à la lumière de la crise écologique et de la destruction de la biodiversité, de tout cet état de lieu que nous venons d'entendre, hein, des changements climatiques, de la clameur de la terre, de la clameur des pauvres, eh bien, on peut entendre cette clameur comme une souffrance. Mais on peut aussi interpréter cette clameur comme étant le gémissement de l'esprit d'une création qui est continuée, qui est encore en train de se faire. Et ces gémissements sont alors signes d'espérance, exprimant le désir impatient de la création d'entrer dans cette gloire, dans cette liberté, dans cette libération des enfants de Dieu. Ici, sur le plan théologique, la création, comme toute l'histoire humaine, comme toute la création, est à regarder à la lumière de la croix, de la mort et de la résurrection du Christ, et dans une perspective eschatologique, de la fin des temps, du salut pour tous. J'en viens maintenant, il me reste 2 minutes, au long chemin de la tradition, où je vais un peu me sabrer. D'abord Saint François d'Assise, avec le cantique des créatures.
Après, si tu as besoin, non, c'est ça, si tu as besoin de 5 minutes de plus et que la salle veut bien ne pas te poser de questions.
Non, on verra. Voilà. Loué sois-tu, mon Seigneur, vers toi monte la louange de toute ta création, tu nous donnes de te chanter. Loué sois-tu, mon Seigneur, immense en magnificence, tu fais jaillir ta beauté, et l'homme sait qu'il est aimé, tu fais jaillir ta beauté. Et l'homme sait qu'il est aimé. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre frère, pour toutes les créatures, et pour frère Soleil qui nous éclaire. Loué sois-tu pour sœur Lune et les étoiles dans le ciel, tu les as fixées, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, pour l'air et le nuage et le serein et tous les temps par lesquels tu donnes à tes créatures le soutien. Loué sois-tu pour sœur Eau, qui est précieuse et chaste. Loué sois-tu pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, robuste et puissant. Loué sois-tu pour notre maternelle sœur, la terre, qui nous porte et nous mène et produit la variété des fleurs, des fruits et l'herbe des champs. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour de toi, soutenant injustice et tribulation. Par toi, très haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu Mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui ni l'homme vivant ne peut échapper. Malheureux, c'est la seule qui meurt en péché mortel. Bienheureux, ceux qui accomplissent tes saintes volontés, car la seconde mort ne pourra leur nuire. Louez et bénissez, mon Seigneur, toutes les créatures. À la lumière d'une existence comme celle de François, il apparaît clairement que ce n'est pas en violentant la nature et en l'asservissant que l'homme peut améliorer la qualité de son existence, mais en coopérant à l'œuvre de création continue à laquelle participe tout ce qui vit. Dans l'enivrement de sa nouvelle puissance, l'homme de la société industrielle s'est comporté comme un despote face à la nature. Longtemps, il s'est cru Prométhée. Peut-être commence-t-il à se rendre compte que sa véritable force consiste à se percevoir comme créature responsable. Responsable et fraternelle. Cette fraternité cosmique passe nécessairement par l'humble reconnaissant de notre condition de créature. Elle ne va pas sans un profond dessaisissement de soi, dont le cantique des créatures se fait l'écho, en célébrant comme des frères et des sœurs les éléments les plus humbles, y compris notre mère, la terre. C'est un des trois passages des lois Leclerc, vous pourrez lire les deux autres. Après Saint François, Saint Jean-Paul II, c'était assez étonnant. Je pense que beaucoup parmi vous, enfin, en tout cas parmi mes frères prêtres, beaucoup se disent, mais comment on l'a canonisé celui-là, avec le mal qu'il a fait en Amérique latine, bon. Mais pour l'écologie, je crois qu'il est à réhabiliter. Voilà. Est-ce que c'est lui le premier pape écolo? Peut-être, voilà. Paul VI l'avait appelé pour être son expert. C'est Paul VI le premier qui a introduit dans les textes de l'Église l'écologie. Mais c'est bien Jean-Paul II, avec une centaine de textes, qui marque un tournant décisif dans l'intégration de l'écologie dans l'enseignement de l'Église. On se souvient de Karol Wojtyla, homme sensible à la beauté de la nature, amoureux du grand air, randonneur, campeur, kayakiste, nageur, skieur. Il a su allier nature, sport et prière avec le bien-être qu'il procure. Marqué par la spiritualité franciscaine, c'est lui qui a fait de Saint François le patron de l'écologie en 1979. De ce dernier, il retient que la création parle de la bonté et de la beauté du Créateur. La nature est comme un livre ouvert, un évangile qui nous parle de Dieu. Si Dieu est transcendant, il est aussi immanent, présent à toute la création. Jean-Paul II, c'est aussi celui qui était très attentif aux activités des experts scientifiques, notamment l'Académie pontificale des sciences, et puis sa lecture précise du rapport Brundtland, qui était la publication de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'ONU. Enfin, c'est aussi un précurseur du pape François, à l'écoute de la clameur des peuples. Dominique Lang, dans son article, nous dit que ses nombreux voyages lui ont permis de constater l'accélération des pratiques destructrices de l'environnement, telles qu'il les a déplorées à Madagascar, au Sahel ou à Ouagadougou. Parmi les textes forts de Saint Jean-Paul II, il y a ce message, tout simple, ça tient en trois pages, pour la Journée mondiale de la paix, en 1990. La paix avec Dieu créateur, la paix avec toute la création. Jean-Paul II veut favoriser une conscience écologique devant les menaces sur la paix et toutes leurs conséquences. Précarité, insécurité, égoïsme collectif, accaparement, corruption. Après un parcours biblique où il remonte à la source des dévastations croissantes du monde de la nature, il constate, et c'est ce que nous disait Maureen tout à l'heure, le lien entre crise écologique et crise sociale. Et il dit que c'est un problème moral. Nous sommes allés trop loin, nous avons manqué au respect de la vie. Et là, il donne les principes de base pour chercher une solution. Respecter l'ordre et l'intégrité du cosmos, veiller à la fameuse destination universelle des biens, des principes de la doctrine sociale de l'Église, pour partager ensemble les fruits de la terre, nécessité d'une coopération internationale. Et là, il évoque l'urgence d'une solidarité nouvelle et rappelle que le problème écologique est une responsabilité pour tous et en particulier pour les chrétiens. Leur devoir, dit-il, vis-à-vis de la création et du Créateur est partie intégrante de votre foi. Troisième élément, c'est François avec donc l'encyclique Laudato Si, donc qui date de juste avant la COP21 hein, de Paris. Donc un texte très personnel, à la fois poétique et profond, mais en même temps rigoureux, exigeant. Le titre « Loué sois-tu » est un appel à louange qui nous recentre sur le Créateur. Le sous-titre « Lettre sur la sauvegarde de la maison commune » nous dit l'urgence de la conversion. Donc à la fois une invitation à la louange et puis un coup de poing. La maison brûle. Il s'agit de la sauvegarder et de prendre soin d'elle. Trois bonnes nouvelles et trois ruptures ou crises. Première bonne nouvelle, la création est bonne. Toute créature a été créée par amour et l'humain à l'image et ressemblance de Dieu. Deuxième bonne nouvelle, Dieu continue de nous parler par toute sa création. Ce don reçu de la main ouverte du Père, c'est un langage de Dieu, du Dieu qui nous aime. C'est une caresse de Dieu, il dit même. Le Dieu créateur, troisième bonne nouvelle, c'est aussi le Dieu sauveur. Et puis, il détaille les trois ruptures ou les trois crises. Rupture d'abord de la relation avec Dieu, c'est la crise spirituelle. Les déserts intérieurs sont devenus grands, d'où la nécessité d'une conversion intérieure. Rupture de la relation entre nous, avec ses frères et ses sœurs, c'est la crise sociale. Dans un monde individualisé, où l'isolement est de plus en plus fort, il s'agit de vivre le lavement des pieds. C'est un exemple que je vous ai donné. Faites ainsi les uns pour les autres. Et enfin, rupture de la relation avec la création tout entière, avec la terre et tous ses habitants, la crise écologique. Contempler la création, le visage des frères et des sœurs, y reconnaître l'image de Dieu. Avec ce leitmotiv, tout est lié. Alors j'avais retenu quelques phrases, quelques extraits choisis, mais je crois que voilà, on pourra aller prendre le temps de les lire. D'abord dans le chapitre 2, qui est inspiré beaucoup de la tradition orthodoxe, hein, de Bartholoméos en particulier, et puis de ce paragraphe 3 du chapitre 6, hein, la crise écologique est un appel à une conversion intérieure. Là, il répond vraiment à la question qui nous est posée. J'en lis quelques extraits. Nous devons reconnaître que nous, les chrétiens, nous n'avons pas toujours recueilli et développé les richesses que Dieu a données à l'Église. Et souvent, la spiritualité s'est déconnectée de notre propre corps et de la nature et des réalités de ce monde. En fait, la spiritualité se vit avec celle-ci et en elle, en communion avec tout ce qui nous entoure. Et puis, il dit que se convertir, c'est d'abord se réconcilier avec la création, connaître comment nous avons pu l'offenser, et puis il indique quelques attitudes. Enfin, les derniers mots de l'encyclique sont vraiment gorgés d'espérance. À la fin, nous nous trouverons face à face avec la beauté infinie de Dieu. Nous pourrons lire avec une heureuse admiration le mystère de l'univers qui participera avec nous à une plénitude sans fin. Oui, nous voyageons vers le sabbat de l'éternité, vers la nouvelle Jérusalem, vers la maison commune du ciel. Jésus nous dit « Voici, je fais l'univers nouveau ». La vie éternelle sera un émerveillement partagé où chaque créature, transformée d'une manière lumineuse, occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres définitivement libérés. Marchons en chantant que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. Dieu qui nous appelle à un engagement généreux et à tout donner, nous offre les forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant continue d'être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu'il s'est définitivement uni à notre terre et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins. Loué soit-il. Je conclue. Oui. Quelques pistes de prophètes, de théologiens et de pasteurs actuels. Alors le premier, c'est Pierre Rabhi, son petit livre, il y en a plusieurs, mais le dernier. c'est la tristesse de Gaïa, de l'effondrement à l'émerveillement. Alors, j'avais prévu deux citations, mais il faut que j'en garde une seule. Je vais prendre la dernière. Voilà. Ou l'avant-dernière. Admirer la nature qui nous entoure, aimer nos enfants tels qu'ils sont, contribuer humblement dans la simplicité d'un mode d'existence dont le véritable luxe est de servir chaque jour les forces de vie universelles, c'est ce que j'appelle la puissance de la modération et la simplicité salvatrice. Nous avons atteint un stade de notre évolution où, paradoxalement, ce n'est plus l'organisation de la vie, mais celle de la survie qui est à l'ordre du jour. Il devient impératif que les innovations soient mises en commun pour une sauvegarde collective. Nous en avons largement les moyens techniques et matériels, mais en aurons-nous sur le plan moral et spirituel? Il me semble que les films de Cyril Dion vont aussi dans ce sens. Un deuxième prophète, pour moi, c'est un théologien aussi, c'est un orthodoxe, Michel-Maxime Heger. Dans la ligne de Pierre Rabhi, il nous aide à sortir de la posture despotique et propose des attitudes, hein, des postures éco-spirituelles. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais je vous les lis avec les vertus qui correspondent. La première, c'est l'interdépendance. Nous renaturer, retrouver notre lien ontologique avec la nature. Et les deux vertus qui en découlent, c'est l'humus, l'humilité, et la compassion, souffrir avec, entendre les clameurs de la terre. Deuxième posture, c'est la fraternité. Nous sommes tous membres de la fratrie cosmique. Et la vertu qui en découle, c'est la responsabilité. Qu'as-tu fait de ton frère? Troisième posture, c'est le jardinier, ou l'intendant de la création, avec les deux verbes, cultiver, garder. Et j'aime bien le proverbe amérindien, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Donc comment être ces jardiniers avec douceur et prudence, en ayant comme modèle le jardinier par excellence, Jésus. Et notre posture, c'est l'hôte de la maison commune. Alors, on est tous des hôtes, des invités de la terre, avec les autres êtres vivants. Et les deux vertus, le respect et l'auto-limitation. Tout à l'heure, avec Claire, on parlait de cette auto-limitation. Dieu qui dit, tu pourras manger de tout arbre, sauf. C'est ce sauf qui est à méditer. Non pas pour diminuer, mais pour réguler l'usage. Une autre posture, c'est être un pont entre la terre et le ciel. Voilà, nos racines sont au ciel. L'être humain est bien sûr un microcosme dans le macrocosme, mais il est aussi, disent les pères de l'Église, un micro-théos. Voilà. En lui, il y a le souffle de vie. Voilà. Et si la vertu qui en découle, c'est la paix intérieure, voilà, l'unification de notre être, corps, âme, esprit. Et nous y contribuerons en substituant la loi de l'amour à la loi de la jungle. Je lisais récemment un article de Sud-Ouest qui disait qu'en école de commerce, on apprend la compétition, mais la sélection naturelle elle-même, à propos des arbres en particulier, dit que ce sont les êtres les plus coopératifs qui s'en sortent. Et enfin, dernière posture, le célébrant, le liturge de la création. Bénir, relier son être et la création, offrir, s'offrir. Avec cinq vertus, la gratitude, la louange, l'émerveillement, nommer, offrir et s'offrir, partager. Pour Martin Buber, il y a deux types de relations. Il y a le « je cela » et le « je tu ». Soit l'autre est un objet utilisé pour satisfaire ses besoins ou ses intérêts, soit l'autre est un sujet rencontré, accueilli tel qu'il est. Et peut-être vous connaissez la traduction qu'en fait Jean-Marie Petitclerc, le Salésien, il dit dans la vie, en fait, il y a deux types de personnes, il y a les TPMG et les TVLA. Tout pour ma gueule, ou tourner vers les autres. Il voilà, faut choisir. Et Michel-Maxime Heger conclut en citant Dostoïevski, « Mes frères, aimez toute la création dans son ensemble, aimez aussi ses éléments, chaque feuille, chaque rayon, chaque animal, chaque plante. En aimant chacun, vous comprendrez le mystère divin des choses. L'ayant une fois compris, vous le connaîtrez toujours davantage chaque jour, et vous finirez par aimer le monde entier d'un amour universel. » Enfin, je conclus avec l'appel des évêques de France. Et puis, on peut aussi évoquer toutes les initiatives qui existent autour de nous. Hein. Bon. Donc, on pourra lire ce petit texte qui vient de sortir, qui est très court, hein, l'occasion des élections. Il nous fait découvrir l'urgence de changer de système de production, hein, et de nos manières de consommer. Il faut ressortir aussi que voilà, le confinement nous a révélé, hein, la différence entre ceux qui avaient un logement correct et puis les autres. Voilà. Et puis il faudrait citer, la liste est non exhaustive, voilà, la liste de tous ceux qui essayent de vivre cette responsabilité ou cette conversion écologique. Le Conseil œcuménique des Églises, avec tous les rassemblements, paix, justice, sauvegarde de la création. Le projet œcuménique Église Verte, l'association Arusha, le mouvement chrétien Uni pour la Terre, le réseau Bible et Création, la commission Écologie et Justice Climatique, le mouvement Pax Christi, bon, le CCFD Terre Solidaire, le campus de la transition, voilà, il y en aurait d'autres. Voilà. Et puis, peut-être aussi la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, qui est devenue une saison de la création, hein, depuis le 1er septembre, le premier jour du calendrier liturgique des orthodoxes, jusqu'au 4 octobre, la fête de Saint-François. Et puis toutes les initiatives dans nos diocèses, je ne sais pas dans votre diocèse, récemment on m'a envoyé un beau film du diocèse d'Agen, où il y a tout un tas d'initiatives en lien en particulier avec le soin des pauvres. Chez nous, à Pau, vient de se lancer le jardin des Fioretti, un projet d'insertion avec la permaculture. Voilà, je crois que notre Église a un rôle à jouer dans toutes ces initiatives comme Carrefour. Amen, je m'arrête. Ça aurait été trop long.